Jean-Philippe Magnin, je suis donc élu à Nantes Métropole en charge de l'ESS et également vice-président du RTES. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur la SIC, mais de façon à la fois en phase avec vous, c'est-à-dire la complexité jusqu'ici pour la mettre en œuvre, et en même temps en faux sur le fait de dire « je pense que c'est un outil riche ». Et pourquoi ? Parce que je pense que ça revisite aussi la question du service public sur les territoires. Ce sont en quelque sorte, avec une participation différente des collectivités locales ou de la puissance publique, des sociétés coopératives d'économie mixte, d'une certaine façon, avec une gestion participative complètement différente des sociétés publiques locales. On peut même imaginer que si la loi le permet, enfin la loi le permet déjà, mais en tout cas si le politique le permet avec l'application de la loi à venir, la gestion de l'eau, la gestion des déchets pourrait tout à fait être prise en compte par des sociétés d'économie mixte de type SIC. Rien ne l'empêche, sauf la culture en France des collectivités, je le sais pour être par ailleurs élu régional également, pour le dire qu'à un moment donné, c'est bien cette question-là qui se pose. Sur un certain nombre d'activités sur les territoires, cette approche mixte, y compris avec les collectivités, la SIC a permis de lancer le débat. Comment on gère le service public sur les territoires et comment la démocratie s'organise autour de ça, y compris ça a des impacts financiers sur l'engagement des collectivités, etc. Et je pense que c'est une question, alors je n'ai pas spécialement la réponse, je dis que la SIC, elle permet ça. Je ne dis pas que la SIC, demain, il faut qu'elle permette de changer toutes les sociétés publiques locales et qu'on les transforme en SIC, entendons-nous bien. Mais c'est ça qui m'intéresse dans le débat, c'est que l'économie sociale et solidaire, par la SIC et donc par certains outils nouveaux, elle permet de revisiter la question du service public et donc d'un certain nombre d'activités dont nous avons la charge, nous élus, sur les territoires en termes de pilotage politique. Et ça, ça me paraît être une question très importante. Alors, elle ne va pas à l'encontre de ce que vous disiez, hein, je crois. Elle est un complément et que j'aimerais, moi, qu'on amène au débat. La loi ne va pas permettre ça tout de suite, mais peut-être que sur le service public, il faudra... D'ailleurs, Benoît Hamon, ce matin, dans son intervention, vous n'étiez pas là, mais globalement, disait... Il a parlé du service public de la petite enfance. Il a parlé d'une... Et toute la journée, on a parlé d'un certain nombre d'activités ou de filières qui sont liées aussi à des compétences des collectivités. Et quand moi, je parle de service de déchets ou d'eau, eh ben, on est bien là au cœur de ce qu'on a à mettre en œuvre en termes de politique publique. Donc la question, c'est la place de l'ESS par rapport à ces politiques publiques-là et comment on propose des modes de gestion peut-être différents en intégrant les acteurs de la société civile aussi de façon différente. Voilà, je tenais juste à intervenir là-dessus.
Merci. Deux interventions au fond.
Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie Monge-Rodriguez. Je suis conseillère communautaire déléguée à l'ESS à Roanne, à Roanne et Agglomération. Alors, moi, je voulais juste apporter mon témoignage de coopératrice dans une SIC qui trie, valorise, réemploie les encombrants sur notre agglomération. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'élu, les SIC nous obligent à changer de positionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas que financeur, on est coopérateur. Et je trouve que c'est une expérience qui est formidable parce que on devient véritablement un acteur de l'ESS dans ce type de montage. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces expériences qui existent depuis quelques années. Et il me semble qu'en tant qu'élu, ça nous fait réfléchir sur notre positionnement et sur les relations que l'on crée avec les acteurs de l'ESS.
Peut-être ça rejoint l'intervention ce matin de Jean Girardon sur le rôle de l'élu qui évolue et qui est plus seul détenteur du service public. Je crois qu'il y avait une question de l'intérêt général, pardon. Il n'y avait pas une question à côté de vous, non ? Non, c'était juste, vous faisiez signe pour votre camarade de siège. Très bien. Alors, il y en a d'autres, madame, ici.
Annie Berger, je suis élue à Caen et aussi secrétaire du RTES. Par rapport à la table ronde de cet après-midi, j'aimerais interpeller et poser des questions qui personnellement me préoccupent beaucoup quant à la création d'emplois et la création d'activités, non pas dans la relation simplement collectivité locale acteur, outils qui permettent d'assurer le financement, etc. Mais bien réintroduire aussi, parce que je crois que l'économie sociale et solidaire, enfin en tout cas telle que moi je la pense et je la conçois, est porteur de cette interrogation permanente, parce qu'on a dit à plusieurs reprises aussi ce matin que c'était une économie qui, j'irais finalement résister mieux à la crise ou était capable d'eux, etc. Et en même temps, je trouve qu'on s'interroge insuffisamment sur qu'est-ce qui fait qu'on a été aussi en temps de crise. Bon, il y a les questions financières, mais il y a les questions aussi de changement du travail. Et pourquoi je mets ça, l'accent là-dessus, c'est parce que dans ce qu'on essaye, bon an, mal an, avec les outils imparfaits qu'on a et les dispositifs qu'on re-emboîte, on appuie des structures qui, en termes de finalité, en termes de portent des intentions fortes, mais avec quand même, j'irais malheureusement, peu d'interrogations sur la question de la qualité du travail, la qualité de l'emploi et j'irais la capacité qu'on a à remettre, comme ça a été dit aussi ce matin, de la démocratie dans l'économie et de la démocratie dans l'entreprise. Parce que ça, pour moi, c'est essentiel. C'est tellement à cause de ce changement de paradigme en sortant de l'ère industrielle qu'on a à réfléchir et à travailler. Et pour moi, c'est important de ne pas dissocier toutes ces questions qui ont été posées de façon fort pertinente, d'une question peut-être sur le fond plus importante, c'est-à-dire comment en fait on fait pour aussi repenser la qualité de l'emploi, la place du travailleur, même dans une entreprise d'économie sociale et solidaire, sa parole dans l'organisation du travail, ses droits, etc., pour ne pas laisser de côté, c'est parce qu'on peut, quand même avoir des dérives malheureusement trop grandes là-dessus. Donc un point de vigilance forte pour moi sur cette question.
Peut-être juste tout de suite une réponse de mon voisin sur ce point-là. Ça rejoint ma question un peu bizarre tout à l'heure. Vous allez voir.
Oui, modestement, c'est vrai que la qualité, je partage ce point de vue sur la qualité des emplois et la qualité. D'où la première revalorisation, c'est le salaire. Je pense que beaucoup de salariés, c'est important, y compris pour les gens en insertion, d'avoir un véritable salaire et non pas un contrat aidé. Je le balance comme ça, mais ça me paraît important. La deuxième, c'est que toutes les règles de la représentation soient effectives dans les structures, y compris dans l'ESS, c'est-à-dire les représentations syndicales, les DP, les CE, et sous prétexte que souvent on est avec des contrats aidés, on ne fait pas partie des effectifs, et tout d'un coup, il n'y a plus de représentation. La représentation, ce n'est pas la contestation, c'est l'échange à un moment. Et puis, quand on a la chance d'être dans un système coopératif, eh bien, effectivement, les salariés deviennent associés, et à partir du moment où les gens sont associés, ils participent aux prises de décision sur les choix de l'entreprise. Et sur la transparence, et c'est vrai qu'à partir du moment où vous pouvez justifier de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, pourquoi on investit, vous savez, dans une SCOP, c'est pas facile quand vous dites tout d'un coup la participation, c'est par rapport à la répartition des excédents, et puis on dit cette année, les trois années qui viennent, on va pas beaucoup avoir à se partager parce qu'on a investi. Et tout d'un coup, dire au gars, à un salarié, au lieu d'avoir un mois de salaire en participation, comme on avait à un moment chez nous, on dit tout d'un coup, il n'y en a plus qu'un tiers parce qu'on a investi. Et on n'a pas investi pour aujourd'hui, on a investi pour dans 3 ans. Ça, si vous ne l'expliquez pas, ça ne fonctionne pas, quoi. Et c'est ça, simplement, la démocratie, c'est les conditions de travail, de se dire, on fait un choix de mettre tel type de machine, ça nous coûte beaucoup plus cher. On dit, quand vous allez expliquer que sur une chaîne de tri, vous allez mettre l'aspiration, la clim, etc., et que ça coûte 120 000 euros, ça coûte aussi cher qu'un broyeur. Et ça, c'est pas productif. Donc voilà, je crois qu'à partir du moment où on peut associer les salariés à la démarche, eh bien, effectivement, et puis c'est vrai que la transparence vaut l'argent, et je crois que même dans le système associatif, entre le conseil d'administration et les salariés, il y a souvent beaucoup de décalage.
Merci. Oui, un petit complément sur ce point, allez-y.
Oui, juste nous interroger en tant qu'élus sur ces questions-là, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, de l'interrogation et de, entre guillemets, de la conditionnalité d'aide, hein, ou de l'interrogation, hein, auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Nous, dans le cadre du SRDE, nous avons rentré de l'éco-conditionnalité avec les entreprises conventionnelles pour l'obtention des financements, et nous avons rentré des conditionnalités ou des vérifications auprès des structures de l'économie sociale et solidaire, et qu'est-ce qu'elles faisaient auprès de leurs adhérents ou de leurs salariés. Mais par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut en même temps s'interroger sur nos pratiques d'élus vis-à-vis des structures de l'économie sociale et solidaire. Et comment, à des moments donnés, on serre les prix, on prend le moins 10 ans, on explique qu'on peut avoir un bac plus 5 au SMIG aidé, etc., etc. Donc, on soumet un certain nombre de structures, et je parle notamment associatives, hein, leurs interventions, à des pressions qui sont infernales, qui sont infernales. Et même si les personnels sont salariés, les jeunes qui y rentrent sont motivés, ont un retour sur investissement à cause du projet associatif, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas extraordinaires. Mais regardons pourquoi. Parce que j'ai rarement vu dans les structures qui ont les ressources, soit par les marchés économiques, soit par les marchés des collectivités, soit par le système de subvention, et qui ont les ressources, qui refusent à leurs salariés de bonnes conditions de travail. Ça, dans l'économie sociale et solidaire, j'en connais pas beaucoup. Et je dirais même que celles qui ont des bonnes ressources, quand on les compare avec l'économie conventionnelle, ont en général des salariés qui sont mieux traités, en termes classiques. Hein. Voilà. Donc, moi, je dis, je suis complètement d'accord avec l'interrogation, mais regardons pourquoi un certain nombre de structures associatives traitent au sous-SMIG, hein, si on l'analyse avec le nombre d'heures travaillées, leur personnel qui fait le travail très correctement et de manière motivée en général. Voilà.
Merci, madame.
Oui, Danielle Cornet, vice-présidente Plaine Centrale, Val-de-Marne. Oui, je reviens sur la question que j'ai posée ce matin, peut-être en la modulant différemment. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, et c'est pour ça que le témoignage de Juratry m'intéresse, c'est que souvent, les structures d'insertion par l'activité économique se retrouvent au cœur des niches d'activités non couvertes par le secteur marchand, de nouveaux emplois, de nouvelles richesses sur le territoire. Et du coup, elles développent un certain nombre de réponses à ces besoins qui sont souvent en partie financés, bien évidemment, par la puissance publique. Et puis, au bout d'un moment, alors qu'il y a possibilité de créer de l'activité, de passer à une autre échelle, d'inscrire cette activité dans le développement local, elles se retrouvent à ne pas vraiment aller beaucoup plus loin parce qu'elles sont coincées par leur cadre institutionnel de structure d'insertion par l'activité économique, la plupart du temps, que leurs salariés n'ont pas le droit de rester là depuis 2 ans, et que du coup, il y a une espèce de frein à la continuité de la création d'une activité riche et créatrice d'emplois sur le territoire, d'autant plus que, quelquefois, ces activités n'ont pas encore trouvé suffisamment le modèle économique pour être totalement autonomes. Donc on a là un passage, j'ai envie de dire, entre de l'innovation et de l'activité pérenne qui se fait difficilement et sur laquelle nous ne pouvons pas forcément apporter toutes les réponses en tant que collectivité. Donc, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Moi, c'est pour ça que le témoignage aussi de M. Grosset m'intéresse, parce que je sais quand même que les entreprises d'insertion ont un certain cadre institutionnel qu'elles doivent respecter, et que donc il doit y avoir sans doute séparation entre votre activité d'entreprise traditionnelle et l'entreprise d'insertion, parce que vous avez quand même des cadres de comptabilité analytique, de gestion du personnel qui ne sont pas les mêmes. Bon, vous avez l'air de dire non, et pourtant, je crois savoir que les cadres sont très stricts. Bon, bref, qu'importe. En tout cas, il y a quand même des choses qui sont nécessaires à ce moment-là, en termes d'investissement, sur de la niche. On sait bien que les niches transition énergétique, récupération des déchets, etc., sont des niches qui sont traitées dans l'ESS.
Monsieur... Alors, monsieur Grosset vous répond.
Oui, on va pas faire, je vais pas faire le débat sur l'IAE. Je dirais simplement que nous, par rapport aux entreprises d'insertion, c'est clair que on a une mission d'insertion, mais tous nos salariés sont salariés. Ils sont pas salariés parce qu'ils sont en insertion. Ils sont tous à une convention collective. La seule chose, c'est qu'ils sont sur du CDD 2 ans et que c'est encore plus dur de vivre au niveau économique. Donc, si on veut pouvoir fonctionner au niveau économique, eh bien, à un moment, on se professionnalise et on salarie les gens et on les garde et on se développe. C'est pour ça que je dis qu'on est condamné à se développer. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à 135. On a commencé il y a 20 ans à 4 ou 5 et puis on a pris les marchés, on s'est professionnalisé, on a gardé des gens, on a continué notre mission d'insertion à côté et aujourd'hui, tous les salariés sont sur un accord d'entreprise au 13e mois, qu'ils soient en insertion ou pas en insertion, qu'ils soient à 34 heures semaine, etc. Parce qu'on croit à des valeurs et que pour nous, on donne. Mais simplement sur le statut, c'est le même. Après, effectivement, la grande différence, c'est ce que je dis souvent, c'est que nous, dans les structures d'insertion, on forme les gens pour qu'ils s'en aillent. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut, et là je m'adresse au conseil régional, payer la formation pour les structures d'insertion, puisque ça, c'est un investissement important pour les structures, mais sans retour d'investissement. C'est-à-dire, on va former des gens, et ce qui coûte cher dans la formation, et je me retourne vers ma présidente, ce qui coûte cher dans la formation, c'est pas les frais pédagogiques, c'est le remplacement des salariés pendant qu'ils ne sont pas sur leur temps de travail. Et c'est pas les OPCA que l'on a, puisque nous, on a des OPCA, mais comme on a 60 permanents, il faut bien aussi payer la formation. Donc, et ça, c'est normal que ce soit nous qui la payons, et que derrière, les gens restent dans l'entreprise, mais former, on fait passer je ne sais pas combien de CACES par an, les gens ils sont pas là pendant 3 semaines, etc. Et ça leur permet de trouver un travail à l'extérieur. À nous, c'est en dehors de la satisfaction vachement personnelle, on va dire assez super, ils ont passé un truc, puis de remplir une case pour la direction du travail en disant formation, il n'y a pas trop d'autres, voilà. Mais c'est notre boulot, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que aujourd'hui, alors je vais répondre un peu autrement. Nous, quand on réfléchit à notre développement, on réfléchit plus à l'insertion. On réfléchit à se dire comment on développe des activités qui vont créer de l'emploi pour des personnes ayant connu des difficultés. Et à l'intérieur, si on peut faire de l'insertion, ça sera très bien. Ça veut dire qu'on va d'abord aller rechercher l'équilibre avec des activités viables. Parce que aller chercher des activités où on sait qu'on fait... que derrière, il va falloir trouver 80% de subventionnement, ça ne sera jamais viable. Donc, voilà. Donc, on sera obligé de partir sur des... Alors que l'idée aujourd'hui, c'est notre rôle de développeur d'aller créer de l'emploi accessible à tout le monde, etc. Et juste un point, parce qu'on parlait tout à l'heure de milieu associatif et des milieux de l'entrepreneuriat social, il y a quelque chose qui est fondamental pour nous aujourd'hui sur le développement, c'est la formation des entrepreneurs sociaux. Et des dirigeants de structures associatives. Un coup de gueule, j'en ai un peu marre de gens qui sont directeurs de structures associatives et qui comme ce n'est pas leur argent, ne gèrent pas correctement un budget. Même dans les entreprises d'insertion, c'est la même chose. Il y a un moment, on est responsable d'un budget, etc. Alors, on a souvent beaucoup de qualités sociales parce qu'on sait faire des tas de choses, on a une qualité professionnelle parce que si on travaille dans la menuiserie, on est menuisier, mais on n'est pas entrepreneur et La base de nos entreprises, c'est la gestion. Si on sait faire la bonne gestion financière, je vous promets que ça permet effectivement après de développer plein de choses. Et là, il y a de l'argent à mettre dans ce financement-là, quoi.
Dernière intervention de l'après-midi, monsieur.
Ok, c'est la dernière. Ça me permettra de remercier nos 3 interlocuteurs de cet après-midi qui nous ont... fait vivre quelque chose de tout à fait intéressant dans le débat. Ça me donne véritablement l'envie de revenir sur quelque chose qu'on a peu abordé. Donc Cyril Kretschmer, région Rhône-Alpes, administrateur du RTES, une question qu'on a finalement peu abordée ce matin sur les distinctions ou frottements entre économie sociale et solidaire et économie conventionnelle. Malgré Christine a parlé de parité tout à l'heure, de nécessité à accompagner donc, autant l'un que l'autre. Jean-Louis a dit fort justement que finalement les économies conventionnelles étaient beaucoup plus accompagnées par l'argent public que l'économie sociale, alors qu'on reproche beaucoup l'inverse. François De Witte reprenait cette jolie expression de Hugues Sibylle, donc les statutaires de l'économie sociale, les babacools de l'économie solidaire. Et puis on pourrait rajouter les businessmen ou businesswomen de l'entrepreneuriat social ou solidaire. La loi donc, crée une ouverture inouïe aujourd'hui, puisqu'on considérera demain donc, être un acteur de l'économie sociale et solidaire, une structure qui n'est pas forcément une association, une coopérative mutuelle ou une fondation. C'est quand même quelque chose de totalement nouveau. Je crois qu'on n'en mesure pas totalement les conséquences et les conditions aujourd'hui. Alors, tu as parlé, Marie-Christine, d'éco-socio-conditionnalité. Comment pourrait-on effectivement se doter de principes d'action publique pour l'État, pour les collectivités, pour les réseaux qui sont représentés au sein de l'économie sociale? Donc des principes qui permettent effectivement de trier, pas forcément le bon grain de livret, mais en tout cas les structures qui clairement portent un projet de démocratie économique, de portée d'intérêt général, donc d'ancrage dans les territoires, de production donc, d'un bien commun, d'un intérêt général clair, de celles qui considèrent qu'il y a des opportunités pour se saisir de besoins qui sont non couverts, mais dans un projet qui est un projet d'accumulation de profits purs. Cette question ne me semble pas facile à traiter aujourd'hui, et elle sera encore plus difficilement demain. Donc ça m'intéressait d'avoir vos analyses là-dessus, donc regard de ce que va apporter la loi ou de ce qu'elle n'apportera pas.
Alors, la proposition que je vais vous faire à tous les deux, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, étant donné que Claude Alfandéry va maintenant se prêter à l'exercice de la synthèse et qu'en tant que président du labo de l'ESS, il réfléchit pas mal à ces choses-là, peut-être bien qu'on peut lui laisser le soin de répondre à votre question en même temps qu'il ramasse, j'allais dire, ou synthétise l'ensemble de cette discussion que nous avons eue cet après-midi. Est-ce que tout le monde en est d'accord ?